Chapitre 2. Le jeune homme distingué. Marc Maujon attendait Thérèse sur le seuil de la librairie. « Merveille des merveilles » fit-il en soulevant son chapeau. « Vous êtes exact. Votre droit était de me faire attendre au moins 30 minutes. » « C'est que j'ai été maîtresse d'école dans mon jeune temps, ça m'a rendue ponctuelle, » fit-elle en riant. « Dans votre jeune temps, il y a longtemps de cela ?»« Ah oui, très longtemps, j'ai vécu un siècle depuis lors. » Elle poussa un grand soupir et, tout à coup, le large boulevard avec ses fuyantes perspectives disparut à ses yeux, derrière le voile léger des mélèzes du comté de Gloucester, derrière une allée de passereuses et des arceaux de clématites défleuries. Pendant une minute, son âme s'évada vers cette vision tellement proche et lumineuse que Paris, le gai Paris ensoleillé, lui parut sombre quand elle y revient. Marc Maujon lui parlait. Elle tressaillit. « Irons-nous à pied? Ce n'est pas très loin, » disait-il. « Certainement, allons à pied. » Elle s'imagina qu'il allait lui offrir son bras et s'étonna qu'il ne le fît pas. Au bout d'un instant, presque par distraction, car elle avait encore l'esprit ailleurs, elle le lui dit. « Vous ne m'offrez pas votre bras ?» Il s'arrêta presque et lui répondit brusquement. « Mais voyons, nous ne sommes pas dans le quartier latin. » Assez confuse, elle comprit qu'elle avait fait une bévue et se mit à réfléchir. « Londres et Paris, c'est très différent, » reprit Marc. « Très différent, en effet. » À Londres, poursuivit-il, un homme prend une jeune fille par le coude sans lui demander permission pour lui faire traverser la rue ou pour descendre d'omnibus. À Paris, ce geste serait d'une familiarité offensante. « Offrir votre bras à la française ou me prendre le coude à l'anglaise, ce n'est pas pareil, » insista-t-elle. « Si je mettais les points sur les i, vous seriez bien ennuyé, » trancha Marc d'un ton définitif. Un peu plus loin, comme il longeait un joli quai de vieux Paris que bordaient les boîtes des bouquinistes, et d'où les saules penchés trempaient dans l'eau leurs longues branches, Thérèse fut étonnée d'entendre son compagnon lui dire, d'un ton presque sévère, « Vous êtes assez querelleuse, je crois. »« Peut-être, » dit-elle avec indifférence, « j'ai tous les défauts. Tous, c'est trop dire. »« Merci. »« Oui, je me suis mise dans l'esprit que si vous êtes épineuse, ce n'est pas votre naturel. Vous m'avez déjà dit une fois que vous avez un caractère impossible, et je vous ai dit, moi, qu'il faut que les gens autour de vous aient été bien méchants pour vous faire ce caractère impossible. »« C'est vrai, vous m'avez dit cela. » Mais une autre jeune fille meilleure que moi aurait mieux supporté le chagrin. Ce n'est pas une raison, si les gens sont méchants, pour devenir méchante soi-même. » Elle cherchait ses mots péniblement. Ils se turent tous deux pendant quelques minutes. « Comme vous êtes grand, » fit-elle tout à coup, « il me semble que je marche à côté d'un clocher. En effet, c'est ridicule d'être aussi grand que ça. Cela me gêne quand je traverse la place de la Concorde. » L'obélisque me fait signe comme si j'étais son frère. Je suis d'ailleurs atteint d'agoraphobie. Traverser une place me donne des sueurs froides. Une belle fois, je tomberai mort au pied de la colonne de Juillet. « Une belle fois, comment pouvez-vous parler ainsi ? » s'écria Thérèse qui, involontairement, étendit la main et saisit le bras de son compagnon pour le retenir au sommet d'un escalier de lavandière qui s'ouvrait dans le mur du quai. Puis elle retira sa main immédiatement et fronça les sourcils. « En effet, » dit Marc avec son sourire incomplet, qui lui relevait un coin de la lèvre sous sa courte moustache, « en effet, ce sujet de conversation aurait été mieux assorti à votre robe lugubre d'hier soir qu'à votre robe d'aujourd'hui. J'aime mieux celle-ci. » « Elle m'a déjà valu un compliment, » fit Thérèse avec la sotte étourderie qui était un des points mal gardés de son caractère. Dans ce même instant, elle se mordit la langue en pensant au terme même du compliment qu'elle se fût laissée arracher menu plutôt que de répéter. L'aile de sa capeline ne put cacher tout à fait sa joue très rouge. « Ça ne m'étonne pas que vous recueilliez des compliments, » fit Marc Maujon de ce tort absorbé qu'il prenait parfois comme s'il se parlait à lui-même. « Il doit être bien agréable de n'avoir qu'à paraître pour plaire. N'est-ce pas, mademoiselle ?» Je n'en sais rien, je n'en ai pas fait l'expérience, répondit Thérèse d'un ton austère de maîtresse d'école. Marc Maujon partit d'un éclat de rire si sonore que deux passants se retournèrent. Les femmes sont toutes les mêmes, déclara-t-il. Ah, mademoiselle, comme ce serait plus joli d'être moins convenable et tout bonnement simplette. Vous avez peut-être raison, murmura-t-elle, mais je m'en suis mal trouvée d'être simplette. Puis elle s'arrêta, effrayée, à l'extrême bord d'une confession. Elle se sentit devenir froide, presque défaillante. Avait-elle été vraiment assez folle pour songer, l'espace d'une seconde, à révéler son lamentable secret ? Ah, comme il faudra qu'elle se surveille davantage dans l'amitié ! Comme elle devra s'abriter plus peureusement sous une carapace de prudence, de réticence, de défiance même, alors qu'il serait si bon de se confier. De nouveau, ils gardèrent le silence et ne le rompirent que lorsqu'ils entrèrent dans la salle où des chefs-d'œuvre longtemps incompris brillaient comme une pléiade d'astres lumineux et colorés. Ainsi qu'on pouvait s'y attendre, un groupe compact de 3 rangs d'épaisseur était massé devant l'Angélus. « Allons plus loin, dit Marc Maujon, je vais vous montrer un bijou auquel peu de gens font attention. » Il arrêta Thérèse près d'une petite toile qui représentait un arc-en-ciel flottant sur une colline de vergers en fleurs. « C'est la première fois que je vois un arc-en-ciel en peinture !» s'exclama Thérèse. « Oui, comme difficulté, c'est une vraie gageure. Regardez de près le procédé et d'ici le rendu. » Cette écharpe transparente, ce chatoiement d'opale et les arbres fleuris et le vert de l'herbe à travers. Je viendrai tous les jours me remplir les yeux de cet arc-en-ciel. Nous autres, romans, avez-vous remarqué, nous sommes fous de peinture plus que de musique. Aimez-vous la musique ? C'est une langue que je ne comprends pas. Peut-être que je la comprendrais mieux si on me l'avait enseignée. Bah, bah, bah ! Revoici la maîtresse d'école. Pourquoi ne pas avouer simplement que vous n'aimez pas la musique ? Ce n'est pas un crime, voyons. Moi, je supporte la musique, même je l'écoute. Mais elle m'ennuie. J'ai besoin de quelque chose de plus défini comme fondation des rêves que j'imagine. Cet arc-en-ciel. Ah, cet arc-en-ciel. Le songe qu'on fait à 20 ans, à votre âge, mademoiselle Thérèse. Il se reprit. « Mademoiselle Thérèse Lemaire. »« Je suis beaucoup plus vieille que ça, » fit-elle pour cacher l'émoi que son prénom sur les lèvres de Marc lui causait. S'attendait-il à ce qu'elle lui dit « Mais appelez-moi donc par mon prénom, cela me ferait plaisir. » Entre Thérèse et l'amitié, il y avait un barrage, peu de choses, une ombre, un son, l'écho de la voix de Pierre, son accent pour prononcer « Thérèse ». Tout à l'heure, quand elle avait répondu si sottement, quand elle avait menti par pédanterie en disant « Je n'en sais rien, je n'en ai pas fait l'expérience », n'était-ce pas ce même fantôme ironique qui s'était dressé, l'empêchant d'être naturel et de se laisser aller bonnement à la gaieté de l'heure ?« Prends garde à toi, ne te confie pas », murmurait en elle le souvenir. « Vous êtes un peu décevante », fit Marc assez brusquement. Je ne déballerai plus devant vous mes sentiments poétiques. Venez par ici, je vais vous montrer un petit tableau que des journalistes qui n'ont jamais vu la campagne ont baptisé « Le veau mort ». Regardez-moi ça, cette brume du matin, ces paysans graves et recueillis et pleins d'heureuse importance parce qu'ils apportent à l'étable, sur une civière, le veau né dans la nuit au pâturage. Auriez-vous deviné ça toute seule ? « Mais oui, je crois, je connais des paysans. J'ai passé souvent mes vacances dans une ferme chez des cousins. » Subitement, elle eut le cœur gros. Cet humble paradis d'écolières, de jeunes maîtresses d'école, les sapins des pâtures, les hautes gentianes, les petits murs fleuris d'herbe à Robert, c'était un tableau dont les couleurs pâlissaient, où la lumière s'éteignait, parce que les yeux qu'il avait vus autrefois n'étaient plus les mêmes yeux. « Comme ce serait mieux de ne jamais quitter son pays » murmura-t-elle involontairement. Marc semblait suivre le fil des pensées de Thérèse. Il compléta « Mais quand, au bout de la vie, on se dirait « Comme j'aurais mieux fait de quitter mon pays !»« Quel regret amer de n'avoir rien vu !» « Moi, dit Thérèse, je m'étais embarquée pour faire le tour du monde. À Londres, j'ai débuté dans une très vilaine famille. D'ailleurs, on m'a mise à la porte parce que je n'avais pas le ton voulu. J'ai cherché des leçons en ville, je n'en ai pas trouvé. Je suis arrivée à mon dernier sou. » Allait-elle dire « Un ami, un faux ami m'a égarée ?» L'histoire invraisemblable de son mariage par licence et la licence introuvable, le jeune époux énigmatique dont elle n'était même pas sûre de connaître le vrai nom, et puis la solitude éperdue, l'émoi désespéré, la lettre qui tranchait un dernier fil, pouvait-elle, sous l'impulsion du mal du pays, se jeter dans une confidence irrévocable ? Tant qu'on n'a rien dit, quelque chose n'existe pas. Dès qu'on a parlé, une chaîne de contingences imprévues prend naissance. Thérèse connaissait-elle bien ce garçon sympathique, dont le rire si naturel, si dépourvu d'égard au public, dans le salon de Madame Dugard ou sur un quai, se moquait amicalement des petites prévarications de la jeune fille, de ses futiles mensonges de convenance? Que ferait-il de son misérable secret si elle était assez folle pour le mettre entre ses mains? Elle s'interrompit longtemps. Elle attendait peut-être qu'il dît avec intérêt, avec la même discrétion. « Et alors, comment vous êtes-vous tiré d'affaire ?» S'il avait prononcé à demi-voix « Vous avez été très malheureuse, je le devine, pauvre Thérèse !» Elle aurait éclaté en larmes. Elle les sentait venir. Elle se serait sauvée de cette galerie de peinture. Elle aurait couru vers le jardin de Cluny tout proche. Marc l'aurait suivie. Il se serait assis à côté d'elle sur un banc, elle lui aurait tout dit, ensuite, advienne que pourra. Marc, au contraire, attendit un peu, parfaitement discret, puis il renoua la conversation sur les tableaux. « Figurez-vous, dit-il, que j'avais pensé, dans mon extrême jeunesse, me vouer à la peinture. Je travaille chez un éditeur pour gagner ma vie. J'ai dû épouser Léa, mais qui sait, je reviendrai peut-être à Rachel, mes premières amours. »